Le journal de 6 heures est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Pour une surprise, c'est une surprise. Éric Ciotti et Valérie Pécresse au second tour du congrès LR. Le scrutin a mobilisé les troupes à droite, 81% de participation. Derrière les deux vainqueurs, trois perdants, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, tous ont appelé à voter pour Valérie Pécresse, la seule, dit-elle, capable de battre Emmanuel Macron. Éric Ciotti lui propose, je cite, de changer radicalement la politique. Alexandre Chauveau, on va s'intéresser au programme avec finalement des différences à la marge entre les deux candidats.
D'abord, ce sont les deux candidats les plus libéraux économiquement. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans et suppression de postes chez les fonctionnaires. 150 000 chez Valérie Pécresse, 250 000 pour Éric Ciotti. Les deux revendiquent d'ailleurs l'héritage idéologique de François Fillon sur la question, même si Éric Ciotti va sans doute un peu plus loin sur la fiscalité que sa concurrente. Le député des Alpes-Maritimes propose notamment un taux unique pour l'impôt sur le revenu à 15% et l'abrogation des droits de succession. Autre point d'accord sur le constat, mais là aussi avec de légères différences de méthode, la sécurité et l'immigration. Valérie Pécresse veut imposer des quotas migratoires par pays et par métier, là où Éric Ciotti prône une priorité nationale dans l'accès aux emplois, aux logements et aux allocations. En fait, il y a clairement plus de points d'accord que de divergences entre les deux candidats. C'est surtout la posture qui les différencie. La présidente de la région Île-de-France se dit capable de convaincre à la fois les électeurs LR partis chez Emmanuel Macron en 2017 et ceux qui seraient tentés par Éric Zemmour. Éric Ciotti, lui, aime à répéter que son programme est le plus à droite et que la clé de la victoire se trouve dans un projet comme le sien.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le second tour démarre ce matin à 8h jusqu'à samedi, jour de la proclamation des résultats définitifs.
Qui sont attendus en début d'après-midi. Le commanditaire des attentats du 13 novembre au cœur du 53e jour de procès.
Oussama Attar, c'est son nom, un homme de nationalité belge présumé mort. Un enquêteur a dressé son portrait hier à l'audience. Gladys Laffitte, cet accusé occupe une place cruciale dans la hiérarchie de l'État islamique.
Oui, la figure centrale qui fait le lien entre toutes les personnes importantes de ce dossier, selon l'avocat général. Tout simplement car Oussama Attar était à la tête de la cellule des opérations extérieures de l'État islamique qui a organisé les attentats. Ce Belge a fait 3 séjours en zone irako-syrienne. En 2003, il combat avec les insurgés irakiens après l'invasion du pays par les Américains. Il y rencontre le futur numéro 2 de Daesh, puis est arrêté et passe 8 ans en prison, dont 1 séjour à Abu Ghraib, où il dira avoir été torturé. Pendant ce temps-là, en Belgique, sa famille mène une campagne médiatique pour le faire rapatrier. C'est le cas en 2012, sans que les autorités belges n'interviennent. Il est mis en examen à son retour, mais pas incarcéré. Et pourquoi lui avoir refait un passeport, a demandé un avocat de partie civile. Je n'appartiens pas au ministère des Affaires étrangères, a éludé le policier avec désinvolture. Question centrale, car Oussama Attar est reparti en Syrie fin 2013, d'où il ordonnera les attentats du 13 novembre. Question qui est restée hier sans réponse.
Gladys Laffitte du service Police-Justice d'Europe 1. Nouveau conseil de défense sanitaire avant peut-être de nouvelles restrictions. Le gouvernement se réunira lundi pour en décider. 8 malades au variant Omicron ont été enregistrés en France. Son cousin, Delta, majoritaire, est responsable de 48 000 nouveaux cas en 24 heures.
On s'écrit beaucoup ces derniers temps, de part et d'autre de la Manche, des lettres entre Paris et Londres avec un sujet sensible, l'immigration.
Dans un courrier rendu public hier, Jean Castex a refusé une nouvelle fois l'organisation de patrouilles conjointes dans les eaux ou sur le sol français. Il en va de notre souveraineté, a justifié le Premier ministre. A noter que les deux rescapés du naufrage dans la Manche ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en France.
L'unité face à la crise, c'est le message du pape à Chypre aujourd'hui, avant la Grèce demain. Deux pays sur la route des migrants vers l'Europe. Blandine Hugonnet, le souverain pontife veut faire réagir les dirigeants.
Oui, c'est un appel à la fraternité et à l'humanité que veut lancer le pape avec ce déplacement aux frontières de l'Europe. Une Europe qui manque de dignité dans son accueil des réfugiés, estime le chef de l'Église catholique. Pour donner le ton de son voyage, c'est ce qu'il a dénoncé avant de s'envoler pour Chypre.
Ces dernières années, et aujourd'hui encore, ceux qui fuient la guerre et la pauvreté débarquent sur les côtes du continent. Et ils ne trouvent pas l'hospitalité, mais l'hostilité. Et ils sont même instrumentalisés. Ce sont nos frères et sœurs. Combien ont perdu la vie en mer? Désormais, la Méditerranée est un grand cimetière.
Un voyage aux confins de la Méditerranée pour remettre la question migratoire au centre. François veut faire réagir les dirigeants européens sur un sujet qui lui tient à cœur. Pour ce pape argentin, lui-même, petit-fils d'immigrés, ce drame des migrants touche une corde sensible. Et depuis le début de son pontificat, il ne cesse de prôner l'accueil et de dénoncer les politiques anti-migrants et les murs érigés aux frontières.
Merci Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome. À l'issue de ce déplacement, le pape ramènera d'ailleurs une cinquantaine de migrants en Italie.
Et juste avant ce déplacement, le pape avait accepté la démission de l'archevêque de Paris. Monseigneur Aupetit avait envoyé une lettre au Vatican après avoir admis une relation ambiguë, je cite, avec une femme.
Tout autre sujet à présent. Ils étaient 150 à avoir réalisé l'un de leurs rêves hier, rencontrer la star du football, la star du moment, Kylian Mbappé.
Des fans tirés au sort pour une séance de dédicace, l'attaquant du PSG et champion du monde présentait hier à Paris sa bande dessinée autobiographique « Je m'appelle Kylian ».
Bonsoir, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va très bien, merci.
Ah, ça fait trop bien de te voir en vrai.
Ah oui ?
C'est un grand joueur de foot, c'est un de mes préférés. Et c'était un moment que j'ai jamais oublié dans ma vie.
Je pense que les enfants, ils aiment quand c'est illustré, ils aiment que ça leur corresponde, ils peuvent s'identifier à ce genre de choses.
C'est quoi le nom ?
Gab, G-A-B, c'est pour mon frère.
C'est pour vous ?
Merci. Bientôt le ballon d'or qui
vient. Il y a toutes les étapes de ma vie, il n'y a pas que les bons moments, il y a des moments plus difficiles, des moments plus douloureux.
Pour moi, c'est un vrai modèle. Il vient comme moi du 93 et il s'en est sorti et je trouve que bah, c'est un beau modèle de réussite, de beaucoup de travail.
Le but, c'est pas de raconter des histoires, c'est de raconter mon histoire, donc c'est pour ça que je me suis autant investi dedans.
Voilà, visiblement, on adore Kylian Mbappé à tous les âges, adultes comme enfants.
Mais ils ont raison.
Évidemment, bien sûr. Moi aussi, j'adore Kylian
Mbappé.
Si, j'adore, c'est ce que j'allais vous dire.
Allez.
Si vous voulez me l'offrir pour Noël, d'ailleurs.
C'était le journal de Romain Oquet. Merci beaucoup, Romain.